mimétiquement vôtre, Voir le monde avec René Girard.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque.
Pascal Coulon est enseignant en philosophie dans des centres de formation du secteur sanitaire et social et dans des universités populaires. Intervenant aussi dans un centre de soins des addictions, les théories de René Girard lui fournissent un arrière-plan conceptuel pour ses pratiques cliniques. Voici ce qu'écrit Pascal Coulon dans son ouvrage « René Girard, l'impensable violence », publié en 2012 aux éditions Germina. Le rapport de René Girard au christianisme est particulièrement intéressant, mais il est aussi source de polémiques et de problèmes, dans la mesure où son engagement lui vaut des critiques concernant sa légitimité scientifique aux yeux de nombreux chercheurs en sciences sociales. Pour certains d'entre eux, qui reconnaissent la valeur éminente de son œuvre, il est tout à fait possible de distinguer son anthropologie de sa philosophie religieuse. De fait, les théories du désir mimétique et de la victime émissaire constituent un tout autonome et la puissance de sa doctrine anthropologique est indubitable. Mais ce point de vue en rupture fait peut-être peu de cas de l'originalité du rapport de René Girard au christianisme. Ainsi, dans le livre « Les origines de la culture », il indique que son intérêt intellectuel pour ce sujet ne découle pas de sa foi, mais que c'est au contraire sa foi qui procède du résultat de ses recherches scientifiques. C'est l'anthropologie qui le conduit naturellement aux évangiles. Pour René Girard, les évangiles contiennent une véritable science de l'homme. Que faut-il entendre par là précisément? Il s'agit d'une anthropologie religieuse qui permet non seulement de rendre compte du mécanisme victimaire et de sa genèse, mais aussi de prendre conscience de ce mécanisme. Plus profondément, le constat initial de René Girard est que cette science de l'homme véritable suppose l'identification passionnée à la victime qui est la source authentique du savoir. Une science suppose l'emploi et la définition d'un certain nombre de concepts. Dans la dernière partie des choses cachées depuis la fondation du monde, dans le bouc émissaire, dans la route antique, certaines notions bibliques acquièrent ainsi la valeur conceptuelle et opératoire qui convient à une science digne de ce nom. Ainsi, le concept de scandale, par exemple. Ce terme désigne la crise mimétique et son redoutable pouvoir centripète de propagation. Satan, lui, désigne le mécanisme victimaire tel qu'il a toujours eu lieu. Jésus représente le point de vue de la victime innocente. Muni de concepts de cette nature, René Girard devient un exégète tout à fait passionnant de la scène, de la passion, de la crucifixion, de la résurrection, etc. Et cela au sens où cette exégèse fait droit à l'exigence de rationalité du penseur athée, sans pour autant faire injure à l'homme de foi. Dans cet ordre d'idées, le scandale représente la crise mimétique. Le scandale a un redoutable pouvoir de captation et sa force contagieuse n'épargne personne. Le pouvoir d'être scandalisé en vient logiquement à toucher les plus proches, en l'occurrence les fidèles de Jésus. Lors de la scène qui prélude à la passion, Jésus annonce à ses fidèles que même eux le renieront dans la nuit. Pierre jure alors qu'il ne l'abandonnera pas. Mais Jésus lui répond qu'avant que le coq ait chanté deux fois, il l'aura renié trois fois. La suite est bien connue. L'arrestation au Mont des Oliviers, le sang édrin, Pilate, etc., et le reniement de Saint-Pierre, effectivement par trois fois. Contrairement à ses illusions individualistes, Pierre ne peut résister à la contagion mimétique de la foule haineuse pendant la fameuse nuit où Jésus est jugé par le Sanhédrin. Tout conspire en fait au sacrifice d'une nouvelle victime émissaire, et il est extrêmement difficile de résister à l'entraînement de l'unanimité violente. L'idée de scientificité signifie que les termes employés dans les évangiles ont un sens technique pour René Girard. Satan est ainsi à la fois le tentateur mimétique, la source du scandale et ce qui permet au final son expulsion. La formule évangélique « Satan qui expulse Satan » désigne le mécanisme émissaire au point d'incandescence de la crise, celui qui permet à la communauté de se reconstituer. Lorsque le trouble causé par Satan devient trop grand, Satan lui-même, tout comme le scandale, devient en quelque sorte son propre antidote. Citation de « Je vois Satan tomber comme l'éclair ». Il apparaît assez clairement que les faits de persécution sont, dans la passion, identiques à bien d'autres faits antérieurs de même nature. La séquence phénoménale étant donc rigoureusement la même que dans un autre épisode de persécution d'une victime émissaire, qu'est-ce qui permet en première instance de distinguer la passion d'un mythe quelconque? Au paroxysme de la crise historique, liée à la pression romaine sur la Judée, un drame sacrificiel comme les autres se déclenche, avec sa victime classique, accusée de crimes tels que se prendre pour Dieu, ou encore comploter contre l'État en se disant roi des Juifs, etc. Dès lors, en quoi ce sacrifice prend-il un sens très différent? Nous pourrions dire d'abord simplement que les chrétiens ne croient pas en la culpabilité du Christ. Pourtant, à raison de la contagion mimétique qui va jusqu'à toucher les disciples eux-mêmes, l'unanimité contre Jésus est quasiment réalisée. Mais cette unanimité se rompt par la suite, insuffisamment dans un premier temps pour détruire l'effet mythique, mais suffisamment pour assurer la révélation. La révélation ne résulte au fond de rien d'autre que cette fissure initiale, de cette petite rupture d'unanimité qui conduit une minorité d'abord, puis l'ensemble de l'humanité par la suite, à prendre conscience de la réalité du mécanisme émissaire. C'est la vérité de cette minorité fragile qui va finalement prévaloir et ce point de vue va tout changer. L'analyse de René Girard montre que la révélation ne relève pas réellement de la croyance ou pire de la superstition. La révélation est en premier lieu une réalité anthropologique. Rien ne change réellement au niveau de la séquence phénoménale, encore une fois. Les faits sont les mêmes que lors d'une persécution plus classique, susceptible de générer un mythe. Cependant, à la différence des mythes, où le mimétisme est très présent, mais où il faut le déduire indirectement par une méthode indiciaire, les évangiles mettent en lumière le mécanisme de la crise et par là de toutes les crises. C'est bien là l'essentiel en fin de compte, parce que, ce faisant, ils discréditent les accusations contre la victime. Ils déconstruisent les accusations mensongères qui ont toujours été portées à l'encontre de toutes les victimes de toutes les époques antérieures. Le triomphe de la croix, autre expression aux connotations suspectes pour la modernité, acquiert ici aussi une dignité conceptuelle. La croix fait triompher la vérité sur le mécanisme au sens où la fausseté de l'accusation est révélée. Le mécanisme émissaire est littéralement cloué sur la croix. René Girard écrit ainsi dans « Je vois Satan tomber comme l'éclair ». Loin d'être obtenu par la violence, le triomphe de la croix est le fruit d'un renoncement si total que la violence peut se déchaîner tout son soûl sur le Christ, sans se douter qu'en se déchaînant, elle rend manifeste ce qu'il lui importe de dissimuler, sans soupçonner que ce déchaînement va se retourner contre elle cette fois, car il sera enregistré et représenté très exactement dans les récits de la Passion. Lorsque Paul affirme ne rien vouloir connaître en dehors du Christ crucifié, il ne fait pas de l'anti-intellectualisme. Il croit très littéralement qu'il n'y a pas de savoir supérieur à celui du Christ crucifié. La souffrance de la croix est le prix que Jésus accepte de payer pour offrir à l'humanité cette représentation vraie de l'origine dont elle reste prisonnière. C'est par la souffrance sur son chemin de croix que Jésus nous offre cette représentation vraie. À ce sujet, René Girard aura longtemps résisté à l'idée d'assimiler la passion du Christ à un sacrifice. Il tenait à réserver ce concept pour les rituels archaïques du mécanisme émissaire, ayant permis au groupe de ne pas s'autodétruire pendant des millénaires. Les dits sacrifices rituels ne mettent fin que temporairement au cycle de violence mimétique, sans les remettre fondamentalement en question. Par contre, la mort du Christ, en ce qu'elle appelle au pardon de ceux qui ne savent pas ce qu'ils font, en ce qu'elle invite à tendre l'autre joue, est un véritable avènement. Par son exemple, le modèle christique montre en effet comment s'émanciper du cycle du désir mimétique et de sa réciprocité violente. La rupture d'unanimité des évangiles sera appelée à une longue postérité. Elle ouvre en effet une brèche permettant de penser l'impensable, cette impensable violence qui avait toujours prévalu et structuré les communautés ou les principautés. Or, penser la violence, c'est immédiatement penser sa fondamentale injustice, avec les conséquences inévitables que ce jugement entraîne. Il faut préciser ici que si la violence en question est un impensable, c'est moins pour des raisons morales en premier lieu que pour des raisons logiques, et cela au sens où une représentation ne peut réellement émerger comme telle qu'à partir de la différence. L'unanimité signifie précisément l'indifférenciation. Là où tout le monde pense la même chose, on ne peut penser. L'impossibilité logique de se représenter le phénomène du bouc émissaire n'est pas sans conséquence, puisque c'est seulement là où l'emballement mimétique n'est pas représenté qu'il peut avoir son rôle générateur. C'est impensable sous forme d'absence de représentation, se manifeste bien entendu au niveau textuel, notamment dans la constitution des mythes. La révélation biblique, c'est la dissolution progressive du dieu de la foule et des rituels archaïques, et l'émergence du dieu des victimes. L'agneau de Dieu a, de façon décisive, remplacé le bouc émissaire. Pour mettre un terme au cycle infernal de la violence mimétique, il faut, comme le Christ, briser la réciprocité mortifère en imitant le Père. Il faut suivre le Christ qui imite seulement le Père. Mais nous l'avons vu, la violence se déchaîne d'autant plus contre celui qui révèle son mécanisme. Ruse suprême et cruel paradoxe, c'est même parce qu'elle se déchaîne et se montre ainsi sous sa forme pure que le mécanisme de la violence se retourne contre lui-même en révélant ce qui avait toujours été caché jusque-là. En ce sens, suivre le Christ, c'est aussi accepter de subir la violence. C'est plus précisément encore prendre sa part d'exclusion ou d'ostracisme dans le processus de révélation de la vérité de la violence. À partir de l'événement historial de la révélation chrétienne, rien ne sera plus comme avant, nous dit René Girard. Certes, la découverte de l'innocence de la victime ne veut pas dire pour autant que cesseront nécessairement les violences, y compris celles provenant des chrétiens, dans un contexte historico-politique où leur religion deviendra dominante. Des phénomènes de bouc émissaire ne manqueront pas de se reproduire périodiquement, de façon très intense parfois et sur la longue durée, mais ils ne seront pas sans donner lieu à des remises en question et à des prises de conscience liées à cette lointaine rupture de l'unanimité. Merci de votre écoute. À notre prochaine rencontre.